Vous avez des questions? L'écrivain. Cette beauté et cette vérité toute palpitante au cœur des mortels, j'ai voulu d'une plume ailée les rendre captives. La création qui se déroule sous nos yeux tel un panorama, hommes et créatures, êtres et choses, événements, paysages, et les autres mondes également déployés dans notre conscience à travers nos sentiments et nos perceptions, forment avec eux toute une toile mystérieuse, un dédale compliqué. Ils m'ont ensorcelé et j'entends leur voix qui me presse de connaître, de comprendre et de saisir. Leur voix plus douce et plus irrésistible que la voix même des sirènes et génènes. C'est le chant de cette voix que j'ai voulu prêter à mes paroles. J'ai voulu dire le mystère des choses. J'ai voulu sans détour faire parler le soin. Ce qui reste caché, ce qui demeure scellé, ce qui depuis les profondeurs secrètes anime les soleils et les étoiles et les cœurs. C'est cela que j'ai voulu dévoiler, livrer à la pleine lumière du jour. Le labeur des choses, terrestres ou supraterrestres, est une pantomime muette et souvent confuse. Je lui ai prêté la parole et la conscience. Les mots me semblait le plus merveilleux des instruments, l'instrument par excellence. Ils ont juste assez de consistance pour incarner et exprimer, ni trop fluides pour être vagues, ni trop compacts pour être opaques. Le mot appartient à deux mondes à la fois. Il est du monde matériel et peut ainsi donner forme et substance, mais il est suffisamment immatériel pour rester en contact avec les mondes subtils, forces et vibrations, principes, idées. Il peut matérialiser l'immatériel, incarner ce qui est désincarné, mais il peut surtout donner leur sens aux choses, la signification exacte, enclose dans les formes. Dans mes poèmes lyriques, j'ai voulu mettre à nu les grandes nostalgies du cœur, celui de l'homme et de la nature. J'ai voulu dire ce pourquoi éperdument ils appellent, pourquoi leurs larmes. Sur une plus large toile, j'ai peint en légendes et en paraboles les mille facettes de la vie, ses humeurs et ses pulsions, ses rares sagesses, sa commune folie. J'ai donné un accent vibrant et une réalité lourde de sens aux épisodes qui forment l'histoire, l'histoire de la conscience dans l'homme et la nature, les tragédies et les comédies de la vie, je les ai pétris en drames, et il ne m'appartient pas de dire quelle fut votre satisfaction en voyant les formes anciennes répondre si magnifiquement aux besoins et aux exigences du tempérament moderne. En d'innombrables personnages, j'ai façonné les figures et les caractères des forces vivantes. Mais il existe un instrument plus vaste encore et plus explicite, le roman, qui est peut-être plus agréable à l'esprit scientifique et chercheur de notre âge, car il donne un exemple en même temps qu'il explique. Ainsi, je vous ai raconté la vivante histoire d'individus et de groupements sociaux. J'ai également tenté de vous décrire l'histoire et la vie de l'humanité prise dans son ensemble, cet agrégat massif avec ses mouvements en rond et en spirale, ses ascensions. Mais je savais, je sentais que l'esprit humain ne peut se suffire d'une simple extension ou expansion, la vaste communauté. Ainsi vous ai-je donné mon épopée. En vérité, ce fut l'œuvre de toute ma vie. Beaucoup d'entre vous, je dois dire, ne l'ont pas comprise et ne la comprennent pas. Un plus grand nombre encore en est resté intimidé. Mais tous, vous avez senti son frémissement magique. Oui, ce fut une tentative désespérée pour déchirer le voile. J'ai varié le thème et j'ai varié la manière. J'ai jonglé comme un homme de science consommé avec mes propres mots. Je savais changer leur structure, comment les transmuer pour ainsi dire, comment les faire messager d'un sens nouveau, d'un nouvel accent, d'une valeur nouvelle. Je possédais quelques maîtrises de la période cicéronienne, un peu de l'ampleur de Milton, un peu aussi de cette racinienne tendresse. Je n'étais pas incapable de la simplicité d'un Wordsworth à sa belle époque, et la magie shakespearienne ne me fut pas non plus tout à fait étrangère. Le sublime d'un Valmiki ou la noblesse de Vyasa n'était point sommé si haut que je ne puisse franchir. Et cependant, je n'ai pas atteint mon but. Je ne suis pas satisfait. Je reste malheureux. Car ce sont après tout des rêves que j'ai créés. Des rêves que j'ai sommés aux quatre vents. Je sens que je n'ai pas touché la vraie vérité des choses, ni leur âme de beauté. J'ai effleuré seulement leur surface, caressé la plus extérieure robe dont se pare la nature. Mais son corps lui-même, mais son être véritable, s'est dérobé à ma poursuite. C'est un voile arachnéen que j'ai tissé autour des membres de la création. Si réelle fut sa semblance, si enchanteur fut-il apparemment, et les moyens, l'instrument lui-même, qu'en un temps j'avais pu croire sans défaut, parfait dans sa nature, pour pénétrer et révéler, pour exprimer, pour revêtir de chair. Cet instrument m'a déserté. Un grand silence, un pur mutisme m'a finalement semblé plus proche du cœur des choses. Au milieu de ce flot sans fin, au milieu de ces changeantes myriades, j'étends mes bras impuissants et tel Faust m'écrit, où te ferais-je captive, ô nature infinie? Un autre grand poète fut autrefois comparé à un ange sans force battant dans le vide en vain ses ailes dorées. Notre espèce tout entière ne vaut pas mieux. À la fin de ma vie, je demande, avec l'ignorance d'un enfant, que veut dire tout cela? Devant quel Dieu nous inclinerons-nous pour déposer notre offrande? À quoi ressemble donc la vision de la Shéhinah? Pourquoi avoir vécu? Pourquoi mourir? Quel est le sens de cette apparition fugitive sur la terre, de tous ces efforts, de toutes ces luttes, de tous ces succès compensés par tant de souffrances? De ces merveilleux espoirs, de ces enthousiasmes triomphants menant vers des abîmes d'inconscience et d'ignorance que rien ne semble pouvoir combler. Et tout cela, ayant pour conclusion inévitable une disparition, une dissolution, encore plus mystérieuse que l'apparition, quelque chose qui donne l'impression de l'absurde, d'une mauvaise plaisanterie, aussi macabre qu'inutile.
Le mot est suffisamment immatériel pour rester en contact avec les mondes subtils pour ses vibrations, principes, idées.
Mon enfant, je tiens à vous dire pour commencer que c'est de la littérature. Alors, il ne faut pas me demander des explications, c'est une façon de dire littéraire. S'il faut le comprendre d'une façon littéraire. C'est une description littéraire du mot. C'est très exact. Mais c'est une description littéraire. Alors, je ne peux pas faire de la littérature sur la littérature. Il faut avoir le goût des formes, de la jolie manière de dire les choses, un peu exceptionnelle, pas trop banale, mais c'est justement une façon, c'est la façon de dire qui a du charme. La littérature, c'est tout dans la façon de dire. Vous attrapez ce que vous pouvez de derrière. Si vous êtes ouvert, justement, au sens littéraire, alors vous, ça vous évoque des choses. Mais ça ne peut pas s'expliquer. C'est un moyen d'évocation qui correspond aussi à la musique. Naturellement, on peut analyser la littérature et voir comment la phrase est construite, mais ça, c'est comme si vous changiez un être humain en squelette, c'est pas joli un squelette. C'est la même chose. Si dans la musique, vous faites du contrepoint et que cette note doit nécessairement amener celle-ci et ce groupe de notes doit nécessairement amener celui-là, vous gâtez la musique aussi. Vous faites un squelette avec de la musique, c'est pas intéressant. Ces choses-là doivent se sentir avec le sens correspondant. Le charme de la phrase avec le sens littéraire. Attraper l'harmonie des mots. Est-ce que ça évoque? N'est-ce pas, toute l'idée est dans chacun d'eux. Ça, c'est la même chose. On vous donne la description de gens qui sont arrivés au maximum de la possibilité humaine. Il est évident que cet écrivain-là est un très grand écrivain. Ce que l'on peut faire de mieux? Eh bien, il est arrivé à ça. Et puis au bout, il s'est aperçu que ça, c'était creux, qu'il lui manquait l'essentiel. Et pour tous, ce sera la même expérience. Nous avons dit la dernière fois que c'était un homme d'État exceptionnel, et bien nous disons cette fois-ci que c'est un écrivain exceptionnel, qui est arrivé au moment psychologique, où il peut s'éveiller à une autre conscience, une conscience plus haute. Et pourtant, la description qu'il fait, c'est vraiment une description d'un maximum des possibilités humaines. Il ne voyait pas platement les choses telles qu'elles sont, il voyait l'esprit qui était derrière, il communiait avec lui, il essayait de l'exprimer, et il a fait... Il a été aussi loin qu'une conscience humaine peut aller. Et puis alors, il s'est trouvé devant un précipice. Et comment passer de l'autre côté? Toute la chose est comme ça. Nous aurons à répéter la même chose chaque fois. Voilà. Pas de questions?
Comment peut la littérature nous aider à progresser?
Hein?
Comment la littérature peut nous aider à progresser?
À quoi?
Progresser.
Ça peut vous aider à devenir plus intelligent, à comprendre mieux les choses, à avoir le sens des formes littéraires, à cultiver votre goût, à savoir choisir entre la bonne et la mauvaise manière de dire les choses, à enrichir votre esprit, ça peut vous aider de 100 manières différentes. Il y a beaucoup de progrès différents. Et si on veut progresser d'une façon intégrale, il faut progresser dans toutes ces directions différentes. Eh bien, celle-là, c'est une progression intellectuelle et artistique en même temps, où les deux se combinent. On joue avec les idées, on est capable de les comprendre, de les classer, de les organiser, et en même temps, on joue avec la forme de ces idées. La façon de les dire, la façon de les exprimer, la façon de les présenter et de les rendre intelligents.
Tout ce qu'on lit de la littérature, histoire, roman, etc., a très souvent de la substance qui abaisse notre conscience. Et ce n'est pas tout à fait possible de laisser la matière élue seulement du point de vue de la valeur littéraire.
N'est-ce pas? Il n'y a d'excuses de lire des romans quelconques que s'ils sont remarquablement écrits et que vous voulez apprendre une langue. N'est-ce pas, s'ils sont écrits ou dans votre langue ou dans une autre langue et que vous vouliez étudier cette langue, alors vous pourrez lire n'importe quoi pourvu que ce soit bien écrit. Ce n'est pas ce qui est dit qui est intéressant, c'est la façon de le dire. Et alors, la façon de le lire, c'est justement de ne s'occuper que de la façon dont c'est dit, et pas de ce qui est dit. C'est sans intérêt. Seulement, par exemple, dans un livre, il y a toujours des descriptions, et puis on voit de quelle façon ces descriptions sont faites, et comment l'auteur a su choisir les mots pour exprimer les choses. Et pour les idées, c'est la même chose. Comment il a su faire parler ses personnages, non pas l'intérêt de ce qu'ils ont dit, mais comment il le dit. Si on prend certains livres, n'est-ce pas, comme livres d'études, pour apprendre à justement à bien faire les phrases et à exprimer les choses comme il faut, parce que ce sont des livres très bien écrits, ça n'a pas beaucoup d'importance quelle est l'histoire. Mais si on se met à lire des livres pour ce que ça raconte, alors là, il faut être beaucoup plus sévère et ne pas prendre des choses qui vous obscurcissent la conscience, parce que c'est du temps perdu. C'est pire que du temps perdu. Alors, les choses qui sont des histoires vulgaires et qui sont dites d'une façon vulgaire, alors là, n'est-ce pas, ça, il n'en est plus question. Ces choses-là, on n'aurait jamais y touché. Et c'est pourtant la monnaie courante qui circule partout, surtout à notre époque. Ils sont, parce que on a inventé des procédés pour imprimer à bon marché, pour faire des illustrations à bon marché, alors on noie le pays et tous les différents pays avec de la littérature qui ne vaut rien, qui est mal écrite, mal pensé et qui exprime des choses vulgaires et qui vous abrutit par des idées vulgaires et qui vous abîme complètement le goût par des images vulgaires. Tout ça, c'est parce que au point de vue production, on réussit à faire des choses à très bon marché, qu'on appelle des éditions accessibles à tous. Mais comme le but de ces gens-là, c'est pas du tout ni d'éduquer, ni de faire des progrès, loin de là, ils espèrent au contraire qu'on ne progressera pas, parce que si on progresse, on n'achèterait plus leurs marchandises. Leur intention, c'est de faire de l'argent aux dépens des gens qui lisent leur littérature. Alors, plus ça se vend, mieux c'est. Ça peut être affreux, mais c'est très bon si ça se vend bien. C'est la même chose avec l'art, c'est la même chose avec la musique, c'est la même chose avec le théâtre. Les dernières découvertes scientifiques appliquées à la vie ont mis à la portée de tous toutes sortes de choses qui étaient réservées seulement à l'élite intellectuelle et artistique avant. Et pour légitimer leur effort et qu'ils aient du profit avec leur travail, ils ont fait les choses qui peuvent le plus être vendues, c'est-à-dire les choses les plus blasses, les plus ordinaires, les plus vulgaires, les plus faciles à comprendre, et qui ne demandent aucun effort et aucune éducation. Et toute la terre est noyée sous ces choses-là, au point que quand il y a quelqu'un qui a écrit un bon livre ou a fait une bonne pièce de théâtre, il n'y a plus de place pour lui nulle part. Parce que toute la place est prise par ces choses-là. Naturellement, il y a des gens sensés qui essayent de réagir, mais c'est très difficile. Il faudrait d'abord que l'esprit mercantile soit chassé de ce monde. Ça prendra du temps. Il y a des signes comme ça que peut-être c'est moins respecté qu'avant. Il y a un temps où, n'est-ce pas, on était un criminel quand on ne savait pas faire des affaires. Et celui qui avait l'audace de dépenser son capital, même pour des choses très bien, il était bon pour être envoyé dans une maison de fous. C'est un peu mieux maintenant, mais enfin, nous sommes encore loin de la situation véritable. Il y a encore le veau d'or, là, qui trône sur le monde. Avant qu'il soit jeté par terre, il se passera encore un peu de temps, je le crains. Ça a tellement faussé l'esprit des gens que c'est pour eux le critère. N'est-ce pas, en Amérique, quand on parle de quelqu'un, on dit lui, oh, il vaut $1 million. Ça, c'est le plus grand compliment qu'on peut faire. Et c'est ça, on demande, connaissez-vous ce monsieur, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut $100,000. Il vaut $500. Alors, ça veut dire qu'il a une position qui lui rapporte ça. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est stupide? Est-ce qu'il est... Ça n'a aucune espèce d'importance. Est-ce que c'est un homme qui est bon ou un homme qui est mauvais? Ça ne fait rien du tout. Est-ce que c'est un homme riche ou est-ce que c'est un homme pauvre? S'il est riche, je voudrais bien le connaître. S'il est pauvre, je n'ai rien à faire avec lui. Eh bien ça, naturellement, l'Amérique est un pays jeune. Alors, ses manières sont des manières d'enfant, mais des manières d'enfant assez mal élevées. Mais les pays vieux sont devenus trop vieux et ils ne peuvent plus réagir, ils branlent de la tête et ils se demandent si après tout cette jeunesse n'a pas raison. C'est comme ça. Le monde est très malade. C'est tout.
Comment est-ce qu'on doit choisir ces livres?
Il serait préférable de demander à quelqu'un qui sait. Si vous demandez à quelqu'un qui au moins a du goût et de la connaissance littéraire, il ne vous fera pas lire des choses mal écrites. Maintenant, si vous voulez avoir une lecture qui vous aide au point de vue spirituel, c'est une autre matière. Il faut demander à quelqu'un qui a une réalisation spirituelle de vous aider. N'est-ce pas? Il y a deux lignes qui sont très différentes. Elles peuvent converger parce qu'on peut faire tout converger. Mais comme j'ai dit, il y a deux lignes qui sont vraiment très différentes. Une, c'est un choix perpétuel, non pas seulement de ce que l'on lit, mais de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, de toutes ses activités, de ne faire strictement que ce qui peut vous aider sur le chemin spirituel. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être très étroit et limité. Mais ça doit être sur un plan un peu plus élevé que la vie ordinaire et avec une concentration de volonté et d'aspiration qui ne permet pas d'aller d'errer sur le chemin, d'aller de droite et de gauche inutilement. Ça, c'est austère. C'est difficile d'adopter ça quand on est très jeune, parce qu'on a l'impression que l'instrument que l'on est n'est pas assez formé ni assez riche pour se permettre de rester tel qu'il est sans s'accroître et progresser. Alors, d'une façon générale, excepté pour un très petit nombre, ça vient plus tard. Après un certain développement et une certaine expérience de la vie. L'autre chemin, c'est celui du développement aussi complet, aussi intégral que possible de toutes les facultés humaines, de tout ce que l'on porte en soi, de toutes ses possibilités. Alors, un éventail aussi largement que possible, dans toutes les directions, pour remplir sa conscience de toutes les possibilités humaines, pour connaître le monde et la vie et les hommes et leur œuvre telle qu'elle est maintenant, pour faire une base vaste et riche à l'ascension future. Généralement, c'est ce que l'on attend des enfants, excepté, comme j'ai dit, des cas tout à fait rares, exceptionnels, d'enfants qui portent en eux un être psychique qui a déjà fait toutes les expériences avant de s'incarner cette fois-ci et qui n'a plus besoin d'expérience, qui veut seulement réaliser le divin et le vivre. Mais ça, n'est-ce pas, ce sont des cas d'un sur des millions. Autrement, jusqu'à un certain âge, tant qu'on est très jeune, il est bon de se développer, de se déployer autant qu'on peut dans tous les sens, de tirer de soi tout ce que l'on contient de potentialité pour en faire des choses exprimées, conscientes, actives, de façon à avoir une assise assez solide pour l'ascension. Autrement, un peu pauvre. C'est pour ça qu'il faut apprendre, aimer apprendre, toujours apprendre. Mais pas perdre son temps à se remplir de choses inutiles ou à faire des choses inutiles. Il faut que tout soit fait avec ce but-là, d'enrichir ses possibilités, de développer celles que l'on a, d'en acquérir des nouvelles et de devenir un être humain aussi complet, aussi parfait que l'on peut. C'est-à-dire que même sur cette ligne-là, il faut prendre la chose sérieusement. Pas simplement passer son temps parce qu'on est ici et le gaspiller autant qu'on peut parce qu'il faut le passer d'une façon quelconque. Ça, c'est l'attitude des hommes en général. Ils arrivent dans la vie, ils ne savent pas pourquoi. Ils savent qu'ils ont un certain nombre d'années à vivre, ils ne savent pas pourquoi. Ils pensent qu'ils auront à s'en aller parce que tout le monde s'en va et ils ne savent pas non plus pourquoi. Et alors, la plupart du temps, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont rien en eux, que ce sont des êtres vides, et qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que le vide. Et alors, ils cherchent à remplir ça en se distrayant, ils se rendent tout à fait inutiles, et quand ils sont arrivés à la fin, ils ont gaspillé toute leur existence, toutes leurs possibilités, et tout est perdu. Ça, vous prenez 1000 personnes, il y en a au moins 990 qui sont dans ce cas-là. Il se trouve qu'ils sont nés dans ces circonstances ou dans celles-là et ils essayent de, n'est-ce pas, de passer leur temps aussi bien qu'ils peuvent, de s'ennuyer aussi peu qu'ils peuvent, de souffrir aussi peu qu'ils peuvent, de s'amuser autant qu'ils peuvent, et tout est morne, terne, inutile, stupide et absolument sans résultat. Voilà. Ça, c'est la majorité des êtres humains. Et qui ne pensent même pas, ils ne se demandent même pas, mais enfin, pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce qu'il y a une terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes? Pourquoi est-ce que je vis? Et non, tout ça, ce sont des choses absolument sans intérêt. La seule chose qui est intéressante, c'est d'essayer de bien manger, de bien s'amuser, de bien se distraire, de bien se marier, de bien avoir des enfants, de gagner de l'argent et d'avoir tous les avantages que l'on peut avoir au point de vue des désirs et surtout de ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas poser de problème et d'avoir d'éviter tous les ennuis. Voilà. Et puis de s'en tirer comme ça, sans trop de catastrophes. Ça, c'est l'état général. Ça, c'est ce que les hommes appellent être raisonnable. Et comme ça, le monde peut tourner en rond indéfiniment pour une éternité, il ne progressera jamais. Et c'est pour ça que tout ça, c'est comme des fourmis. Ça vient, ça grouille, ça meurt, ça s'en va, ça revient, ça regrouille, ça remeurt, etc. Et ça peut durer pendant des éternités comme ça. Hein? Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui font le travail de tous les autres. Et ce sont seulement ceux-là qui font que tout ça changera un jour. Alors le premier problème, c'est de savoir de quel côté on veut être. Du côté de ceux qui font quelque chose ou du côté de ceux qui ne font rien. Du côté de ceux qui, justement, pourront peut-être comprendre ce que c'est que la vie et faire ce qu'il faut pour que cette vie aboutisse à quelque chose. Ou bien de ceux qui ne se soucient fort plus de comprendre quoi que ce soit et qui essayent de passer leur temps en ayant aussi peu d'ennuis que possible. Surtout pas d'ennuis. Ça, c'est le premier choix. Après ça, il y en a beaucoup d'autres. Maintenant, si vous avez envie d'une méditation, dites-le. Oui ou non? Oui. Bon. Éliminer votre conscience.